20h sur Radio Campus Paris, nous sommes le dimanche 26 avril 2026. Vous écoutez Radio Campus Paris en direct sur 93.9 et sur le web sur radiocampusparis.org. Et c'est l'heure de Tout un plat. Bonsoir et merci d'être avec nous pour le rendez-vous de Tout un plat, le magazine mensuel de Radio Campus Paris où la cuisine se met à table. Enfin, mensuel, c'est théorique et on va commencer par présenter nos excuses parce qu'on a raté quelques-uns des rendez-vous récents, invités décommandés, animateurs fatigués, oui ça arrive, studio occupé, réalisateurs avec des projets d'Extrême-Orient. Et voilà, on se retrouve déjà fin avril sans avoir rien vu passer. Bon, l'intérêt de tout ça, s'il y en a un, c'est que cela m'a amené à réfléchir un peu, et on va rester modeste, hein, je n'ai pas inventé un modèle d'intelligence artificielle révolutionnaire, non. Réfléchir donc à mes invités depuis le début de l'émission. Et c'est pour moi l'occasion de vous faire rentrer dans les coulisses de la radio, un peu comme l'émission vous propose de vous faire découvrir les arrière-cuisines. Je parle, mais venez nous en au fait. Ce que j'ai réalisé donc, c'est que la plupart des essais qui proposent un regard critique sur la cuisine sont écrits par des femmes. Alors qu'il est de notoriété publique que la confection des repas est une affaire d'hommes, dès qu'on parle de gastronomie, évidemment à la maison, c'est une autre histoire. J'ai même vérifié comment était composé encore cette année le jury de Top Chef, l'émission de M6, que j'ai arrêté de regarder il y a bien longtemps, enfin ça tout le monde s'en fiche. Et bien cette année on a quand même deux chefs femmes pour trois hommes. J'ai surtout vu qu'il y avait seulement quatre candidates pour 12 hommes. J'ai recompté plusieurs fois parce que ça me paraissait incroyable tellement ce rapport me semblait hallucinant et qu'il était tôt quand j'ai écrit cette chronique. Enfin bon, c'est bien 4 femmes, 12 hommes. Ce qui me surprend le plus, c'est que dans cette émission, on a reçu plus de femmes que d'hommes. Et oui, le rêve de tout rédacteur chef d'émission qui veut à tout prix avoir la parité dans son programme, car c'est toujours difficile d'équilibrer hommes entre hommes et femmes. Et ce soir, je reçois encore une autrice. Donc je ne sais pas si c'est lié à des biais personnels par rapport au sujet qui m'intéresse, par rapport à la ligne de l'émission, ou si c'est pour une raison plus profonde, comme ceux qu'expose par exemple Lorraine Malka, qu'on avait reçu ici, les femmes auraient un autre rapport à la nourriture. Enfin, toujours est-il qu'après ces ratés de début d'année, cela m'a convaincu plus que jamais qu'il faudrait surtout ne pas rater les deux prochaines émissions de la saison, d'autant que, est-ce un hasard, mes invités seront sûrement des invités EES. En tout cas, ce soir, entrailles, plats et desserts seront assurés par l'autrice Adélie Verne, ça s'appelle Tout un plat, ça dure 55 minutes et quelques, et j'ai intérêt de faire gaffe, parce que ça commence maintenant. Bonsoir Adélie Verne.
Bonsoir.
Vous êtes l'autrice d'un premier roman, un premier récit, vous préférez quel mot ?
J'ai appris le terme autofiction. Et du coup, alors, pendant ce parcours d'édition, donc on peut peut-être dire ça.
Et bien alors, votre première autofiction, très remarquée, ça s'appelle L'exercice des mâchoires. C'est publié aux éditions Julliard. On pourrait presque partager avec vous notre signature. C'est une autofiction où la cuisine se met à table, en quelque sorte. Alors, on est dimanche soir, il est maintenant un peu plus de 20h. Ça évoque quoi pour vous le dimanche soir ?
Le dimanche soir, généralement, dans la restauration, c'est un des seuls soirs où on est réellement disponible, puisque la majorité des restaurants sont fermés le dimanche et le lundi. En tout cas, dans ceux que j'ai pu fréquenter, dans lesquels j'ai pu exercer. Donc je dirais que c'est le soir où on peut décompresser un petit peu, et puis c'est toujours un synonyme de décalage par rapport au reste de la population, qui généralement est en week-end le samedi dimanche.
C'est donc le soir où on peut retrouver sa famille, les siens, ses proches ?
Potentiellement un des seuls soirs de la semaine, oui.
Et vous avez des souvenirs d'enfance de dimanche soir, de repas de dimanche soir ? J'ai remarqué souvent, il y a des repas particuliers le week-end.
Ouais, nous, le repas particulier du dimanche, c'était que c'était surtout les restes de la semaine.
Et bien, parfois, c'est très bon, les restes bien accommodés.
Ouais, c'est excellent, le reste de la boîte ou du taboulé tipiak, mais voilà.
on peut la ranger peut-être ?
Ouais, carrément, on peut carrément l'arranger. C'était pas dans les cordes de la famille, mais ça peut se faire.
Comment vous l'arrangeriez, vous, aujourd'hui, avec votre expérience ?
Je pense qu'on rajouterait. L'idéal, c'est quand même d'avoir des condiments et des herbes fraîches au frigo pour pouvoir rajouter un petit peu de fraîcheur à tout ça et en refaire une assiette correcte.
Alors, on est dimanche soir toujours. Vous aimez cuisiner quelque chose de particulier maintenant que vous êtes grande, j'ai envie de dire ?
Ouais. Bah, surtout maintenant que j'ai deux enfants, donc il faut que je sois assez efficace.
Alors,
même
est-ce que vous faites
le
les restes
soir. Je fais carrément les restes et généralement, c'est des restes. J'aime beaucoup faire tout ce qui va être plat en sauce à partager, qu'on peut refaire réchauffer au four et réinterpréter après derrière, que ce soit de la carcasse de volaille ou un canard ou un rôti froid, des choses comme ça.
C'est un bon soir pour sortir dîner ? Recevoir du monde ? ou c'est vraiment famille à tout prix?
Non, moi j'aime bien sortir le dimanche soir aussi parce que justement il y a des gens de la resto qui sortent et les restaurants qui sont ouverts reflètent une autre identité, je pense, ce soir-là.
C'est-à-dire que c'est pas tous les c'est pas les mêmes gens qu'on croise, on est plus entre soi, vous pouvez plus parler peut-être avec les gens que vous croisez à ce moment-là.
Ouais, exactement, c'est des soirées qui sont plus longues, qui commencent généralement vers 18h, on fait aussi un peu se confondre les repas à la table, c'est-à-dire que le repas du dimanche midi se confond souvent avec celui du soir, ce qui est toujours très agréable.
À vrai dire, moi, je ne sais même pas s'il y a des restos ouverts le dimanche soir, parce que je crois que je ne suis jamais allé dans un restaurant un dimanche soir.
Oui, mais je vous invite à le faire.
Et vous avez des bonnes adresses? Enfin, on ne va pas te donner d'adresse, mais on en reparlera. Dernière question, est-ce que vous êtes team blues du dimanche soir, vous, ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Jamais?
Pas du tout.
Bon,
pas du
ça
tout
nous fait un point
dimanche.
Commun. Je te retrouvais que le dimanche soir est un moment génial, parce qu'il y a une nouvelle semaine qui va commencer. Une nouvelle semaine, c'est plein de nouvelles choses à vivre. Alors, l'exercice des mâchoires, c'est votre première autofiction, je vais faire attention, qui est nourrie attention, jeu de mots de votre expérience. Est-ce que vous accomplissez un rêve en écrivant un roman, en écrivant un livre en tout cas?
Alors, un rêve, je ne sais pas. Très honnêtement, je n'ai jamais eu comme ambition d'écrire un livre, même si j'ai... plutôt une affinité certaine avec la littérature. Maintenant, ça n'a jamais été un goal de vie d'écrire un livre. En tout cas, ce que je sais, c'est que par contre, j'ai très régulièrement et depuis très longtemps eu besoin de coucher sur le papier ce que je pouvais vivre au quotidien. Maintenant, sans aucune velléité que ce soit publié dans une maison d'édition, c'est un milieu qui ne m'a pas spécialement intéressée, pas spécialement attirée. Ce livre est arrivé sur la table de façon complètement impromptue et m'a permis aussi de clôturer ce cycle passé dans la restauration.
Vous écriviez des notes sur comme un journal ou enfin, que vous dites, vous avez toujours écrit?
Ouais, j'ai toujours.
Vous êtes assez jeune, hein, parce que c'est toujours pareil, à la radio, on ne le sait pas. Vous avez moins de 30 ans, je pense. Donc,
j'ai pile 30 ans.
Ah bon, vous voyez, j'ai encore un peu l'œil. vous avez pile 30 ans. Donc, quand vous dites j'ai toujours écrit, c'est-à-dire que depuis que vous êtes adolescente?
Oui, je crois que ça permet évidemment d'extérioriser. Et puis, quand on ressent les choses de façon trop forte, ça permet de les canaliser d'une certaine façon. Donc, je crois que c'est plutôt ça ce que m'a apporté l'écriture. Maintenant, encore une fois, sans objectif. Que ce soit lu sans objectif d'accomplissement en fait derrière.
Et est-ce que vous aviez, quand vous écriviez, parce qu'on en parlera après, votre livre utilise des mots très justes, le style est, en tout cas, apparaît très travaillé. Est-ce que quand vous écriviez pour vous, vous aviez cette même exigence?
Oui. Oui, oui, parce que j'ai beaucoup de difficultés à mettre le sens réel des mots sur chacun des mots qu'on utilise. Et je trouve que paradoxalement, sur certaines thématiques, la langue française est très riche et puis sur d'autres, elle est extrêmement pauvre. Donc je trouve ça assez nécessaire de venir accoler une pluralité d'adjectifs, de noms, pour faire, grâce à un procédé d'accumulation, venir affiner la pensée.
C'est-à-dire que vous recherchiez les mots toujours quand vous écriviez par exemple le journal, vous cherchiez le mot juste, vous regardiez dans le dictionnaire, ah non c'est plus ça, plus ça. C'est marrant, ça fait un peu comme une recette, on peut dire que c'est comme une cuisine, comme en cuisine on va doser les ingrédients. Est-ce que vous aviez vraiment ce rapport-là aussi à l'écriture?
Oui, oui, mon éditrice disait que j'avais une écriture ciselée et c'est effectivement quelque chose, c'est un terme qu'on retrouve d'ailleurs en cuisine et que je trouve assez juste là-dessus pour le qualifier. Alors l'avantage c'est qu'à 30 ans j'ai plus besoin du dictionnaire mais je peux aller sur des site internet.
Plutôt quand vous étiez jeune, quand je parlais de dictionnaire.
Il y a un site génial qui s'appelle le CNTRL et qui répertorie du coup tout ce qui est proxémie, synonyme, etc., analogie, et qui permet de s'enrichir beaucoup en termes de vocabulaire et d'aller chercher exactement la terminologie pour qualifier telle ou telle sensation, sentiment.
J'insiste un peu sur ce point, mais parce que vous aviez besoin de savoir précisément ce que vous ressentiez pour l'extérioriser, comme vous disiez, pour vous l'évacuer.
Oui,
c'est
parce
que quand vous n'étiez pas satisfaite d'avoir le bon mot, vous aviez l'impression de ne pas l'avoir fait.
Oui, je pense que si l'expression de nos sentiments est couchée de la mauvaise façon sur le papier, finalement, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. On en revient à quelque chose qui est mal extériorisé et qui, du coup, ne se retrouvera pas de façon fidèle. Donc, je préfère passer du temps sur la façon dont je peux... rendre justice à ces sentiments-là plutôt que de faire des raccourcis.
Alors on sait très peu de choses, en tout cas moi je sais très peu de choses sur vous, à part ce qu'il y a décrit sur la quatrième de couverture, je peux la lire, hein. Adélie Verne a exploré pendant près de 10 ans le milieu de la restauration, de la brasserie au restaurant étoilé avant de se consacrer à l'accompagnement des actrices et acteurs des métiers de bouche, l'exercice des mâchoires et son premier livre. Comment vous êtes tombée dans la cuisine?
En fait, je suis tombée dans la cuisine, je pense, quand je suis née. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs extrêmement précis de moi à 3-4 ans, demandant à goûter de l'anguille, du foie gras. J'ai une sorte de fascination qui tourne à l'obsession pour la table. De façon la table avec un grand T, c'est-à-dire la table, autant les arts de la table que ce qui se dit à table, que ce qui se cuisine, ce qui se mange, l'histoire de la cuisine. J'ai des souvenirs de moi qui remettaient en boucle des dessins animés. Dès qu'il y avait une scène où les personnages mangeaient, je regardais en boucle la scène. Je me souviens d'un Tom Tom et Nana où les personnages fouillaient dans un gâteau d'anniversaire et je lisais en boucle ces pages-là. Donc c'est vraiment bien plus qu'une réminiscence, c'est bien plus qu'une passion, c'est quelque chose qui m'a maintenue du plus loin que je me souvienne. Et autant autant le goût que la façon d'en parler, en fait, que l'iconographie qui y est liée.
Mais de là vouloir le faire soi-même, vous auriez pu juste devenir quelqu'un qui fréquente les bons restaurants. Ou vraiment, il n'y avait que ça qui vous intéressait, et à l'école, vous n'aviez pas envie d'étudier autre chose, que ça vous intéressait moins en tout cas?
Alors oui et non, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait j'ai fait une classe horaire aménagée, donc j'ai fait toute ma scolarité en bicursus musique, danse et scolarité normale.
Donc c'est genre des choses qui demandent beaucoup de discipline. Hein.
Ouais, et je suis un peu jusqu'au boutiste, donc je fais les choses... jusqu'au
c'est
bout.
Bien, c'est voilà. Bien.
Et du coup, j'étais plutôt destinée à avoir potentiellement un parcours... plutôt tournée vers l'artistique. Et en fait, je me suis juste rendue à l'évidence quand j'ai commencé à bosser dans la restauration que c'était la restauration que j'aimais plus que tout. Et la restauration, encore une fois, comme la table au sens très large du terme, c'est-à-dire que autant j'ai adoré tirer des pintes derrière un bar jusqu'à 6 heures du mat, autant j'ai adoré bosser en salle.
Voilà, ça me paraît improbable.
Ouais, je comprends, mais enfin, moi, je suis tombée dans le monde de la nuit à 16 ans et ça a été une révélation.
Mais quand vous dites, quand j'ai découvert le monde de la cuisine, c'est quoi? C'est un stage? Et vous aviez besoin d'argent pour
payer
vos études?
Non, j'avais besoin de bosser.
Voilà, c'est
j'avais
ça, vous aviez
besoin de
bosser
pour mes études et j'étais ravie de bosser pour 7 euros de l'heure payée au black pendant 18 heures par jour. Voilà.
D'accord. C'est amusant parce que j'ai cru, enfin c'est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, ce n'est pas le bon mot, c'est ce qui me frappe, c'est que j'ai cru comprendre tout à l'heure dans ce que vous disiez que vous n'étiez pas forcément issu d'une famille de gens que ça intéressait, parce que vous parliez de taboulé en tout près, alors peut-être pour des raisons économiques aussi, j'en sais rien et ça ne me regarde pas, mais c'est souvent qu'on reçoit des gens qui adorent la cuisine et qui racontent qu'ils viennent de familles où les parents n'aimaient pas ça et qui sont un peu les seuls, c'est votre cas?
Alors,
il y a une grand-mère chez vous, un grand-père?
Non.
Non.
Mais genre vraiment pas du tout.
Alors vraiment, il n'y a personne?
Non, alors il y a un rapport à la table qui est quand même un petit peu particulier. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de générationnel, c'est-à-dire que nos parents, en tout cas pour ma génération, qui sont nés dans les années 60, ont accueilli à bras ouverts les surgelés, les boîtes, parce que ça les dégageait d'une forme de responsabilité nourricière et de temps, parce que c'est une génération qui a aussi accédé à des emplois qui ont été plus demandeurs, etc. Maintenant, du côté de mes grands-parents, oui, il y a une affinité pour la table, mais le restaurant restait quand même quelque chose d'absolument exceptionnel qui se comptait sur les doigts de la main. Et les lasagnes étaient surgelées et le taboulé sortait d'une boîte. Donc...
Et vous trouviez ça pas bon ? Quand vous étiez petite, vous disiez...
En fait, ça m'a permis d'être persuadée qu'on pouvait faire excellent avec très peu et que le moindre produit, même une tomate toute seule, toute simple, avec un filet d'huile d'olive, pouvait être absolument sublime. Parce que, moi, des petits pois frais, j'en ai pas. Enfin, je sais pas à quel âge j'ai découvert ça, mais je pense que c'était relativement tardif, quoi.
On parlera plus en détail de votre livre bientôt. Une dernière question, quand justement, au tout début de votre livre... Il y a une scène qui se passe dans le restaurant où vous racontez un service. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous ne parlez pas tellement des goûts, mais des bruits.
Ouais.
C'est quelque chose, quand vous pensez au restaurant, vous pensez au bruit du restaurant d'abord?
Ouais, beaucoup.
La cuisine, enfin, on est en cuisine là surtout. Hein,
en fait, en cuisine, il y a un bruit qui marque et qui... Enfin non, même deux, je pense, qui marque et qui reste... qui forme une sorte de brouillard constant. C'est un, le bruit de la hotte qui fonctionne de la minute...
C'est comme
celui
de la clim ici, là.
Ah, c'est un peu plus fort, mais
j'imagine.
Donc celui de la hotte qui fonctionne à partir du moment où on met un pied en cuisine, parce que c'est la première chose qu'on allume, c'est les gaz et la hotte de toute manière. Et derrière en service, c'est la machine à bon qui passe du coup son temps.
Alors la machine à bons, comme j'ai regardé des émissions Cauchemar en cuisine, je vois vaguement ce que c'est. C'est ce qui permet le lien entre la salle et la cuisine.
Exactement. C'est-à-dire que la salle va prendre la commande en salle et ça fait un bruit parce que le papier sort et ça fait un bruit et du coup en fait on entend la machine à bons avant que la personne au passe, le chef ou le second annonce le bon. Et donc en fait la machine à bons et la hotte, je trouve que c'est des bruits dont on se défait que très tardivement et c'est des bruits qui nous marquent en fait pendant potentiellement 16 heures par jour.
J'ai trouvé ça étonnant parce que quand on pense à la cuisine, on pense au goût, on pense à la vue. Et vous, c'est le bruit.
Ouais, complètement.
Et même encore aujourd'hui.
Ouais, même encore aujourd'hui. Je pense que ces bruits, ces grombrissements, ces claquements, etc., ça forme vraiment l'image qu'on a de la restauration. Et puis aussi parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on parle de cuisine, effectivement. Alors que c'est fondamentalement marquant.
En tout cas, votre chapitre est très réussi parce qu'on est presque fatigué en vous lisant parce qu'on les entend tous ces bruits. Allez, on va écouter non pas du bruit mais de la musique. Première pause dans Tout un plat. Il est un peu plus de 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est sur, je saurai un jour la fréquence, 93.9 FM. Voilà, c'était Keren Ann, Paris Amour. Vous écoutez Tout un plat sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Adélie Verne, autrice de L'exercice des mâchoires aux éditions Julliard. Je vous le disais tout à l'heure un peu au début, votre éditeur nous informe que vous avez été mixologue, que vous avez travaillé dans une brasserie, mais aussi dans un étoilé. Vous pouvez nous parler de ce parcours? Donc on a compris, visiblement, la brasserie, c'était au début comme job d'étudiant. Et là, vous partez et on ne vous arrête plus dans ce milieu-là.
Mais même pas. En fait, la brasserie, c'est arrivé au bout de 3 ans dans la restauration. C'est-à-dire j'ai commencé à bosser en salle parce que besoin d'argent et que c'est un peu le job étudiant facile, n'étant pas en mesure de m'occuper d'enfants et de faire du babysitting. Donc, j'ai préféré aller servir des bières. Et donc, j'ai commencé à travailler en salle.
Je ne suis pas sûre que ce soit plus simple.
Je suis pas sûre non plus parce que du coup, on babysite les clients, ce qui est un petit peu difficile. Différent. Donc j'ai commencé à travailler en salle d'abord, puis à passer derrière le bar. Et quand j'ai découvert le métier des cuisiniers à ce moment-là, j'ai tout de suite accroché. Je viens d'une famille où c'est vrai que la cuisine, j'imaginais pas forcément que ça puisse être un métier un jour. Je comprenais pas exactement ce que faisaient les gens qui se professionnalisaient dans la restauration. Et c'est là, à cette occasion, que je l'ai découvert. Et puis, j'ai pris la décision de passer mon CAP cuisine. Donc, je l'ai caché d'abord à mes parents. Je ne leur ai pas dit. J'ai commencé mon apprentissage. Parce que c'est pas que j'ai eu raison, mais ils ne l'ont pas très bien accueilli, que je décide de faire de la cuisine. Donc, j'ai bossé.
C'est marrant parce que votre génération, il y a plutôt beaucoup de. Le début du retour de
l'œil. Ouais, c'était quand même sur le début parce que, mine de rien, moi, j'ai passé mon CAP cuisine il y a maintenant 13 ans. 12 ans, 13 ans.
Ans.
Et mine de rien, la cuisine, justement, c'était mes parents disaient plutôt tu vas voir, c'est pas comme à la télé. Alors que ça faisait déjà 3 ans que je travaillais dans la restauration et puis plutôt dans des milieux un peu particuliers, c'est-à-dire que je bossais pas beaucoup de jours, je faisais beaucoup de nuits, je faisais des chiffres de 18h, 6h du matin.
Ça, vous le racontez dans votre livre.
Voilà, et ce qui est un milieu bien particulier, mais ce qui aussi m'a permis d'aller très vite en cuisine, puisque du coup, j'avais déjà ces codes-là et j'avais déjà cette énergie qu'on demande dans ce milieu.
On cuisine des choses particulières la nuit?
Oui, parce qu'on cuisine pour des gens qui ont très faim, très vite.
Il faut être rapide parce que c'est des gens qui viennent entre eux dans leur travail, ils s'arrêtent, ils veulent un truc, ils repartent.
Ouais, alors il y en a effectivement parce que c'est toutes les professions nocturnes, que ce soit les taxis, les mecs qui bossent en boulange ou qui bossent sur les marchés, etc. Et puis il y a aussi toute la clientèle en fait qui a picolé et qui est 2h du mat et ils vont pas prendre une salade. Enfin, il faut que ça sorte chaud et très gras et très consistant.
J'ai eu la conversation aujourd'hui. C'est vrai, la soupe aux oignons ou pas? C'est un mythe que la soupe aux oignons, ça aide à aller mieux quand on a un peu trop bu. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Oui, parce que ça hydrate.
Ah, c'est juste ça. Donc autant boire de l'eau.
Ouais,
sauf si
faire.
On aime les oignons.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a fait rendre votre tablier au bout de 10 ans?
La naissance de mon fils.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai eu mon premier petit garçon à ce moment-là. Et c'était juste c'est devenu tout à fait inenvisageable de travailler en coupure 5 jours sur 7 comme je le faisais avant. Il y a des femmes, des cuisinières, des directrices de salle, des sommelières qui y arrivent et gloire à elles. Moi, ça, l'expérience ne m'a pas tentée. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû bifurquer et trouver une autre voie professionnelle.
Écrire ce livre, c'était pour solder les comptes, tourner la page?
Initialement, non.
Oui, parce que vous, à la base, vous avez commencé par écrire aussi. Enfin, comment? Vous êtes reparti des notes que vous preniez régulièrement, comme vous nous disiez au début?
En fait, pas réellement. Ce livre, c'est parti de textes postés sur Instagram.
Ah, c'est vrai?
C'est-à-dire que j'avais juste ce trop-plein et beaucoup de souvenirs de la restauration qui rejaillissaient régulièrement. Et j'avais besoin de les mettre quelque part. Et je les ai mis sur Instagram. Et il se trouve qu'une éditrice est passée par là et m'a dit « Est-ce que tu veux en faire un livre ?» Donc en fait, c'est parti de là. Et c'était tout un cheminement puisque je passais de « je poste 1500 signes sur Instagram » à « en fait, il faut écrire même 5 pages ». Pour moi, au début, c'était lunaire parce que j'avais jamais travaillé comme ça sur demande. Puis après 10 pages, puis 20 pages, puis 30 pages. Puis je me disais « mais est-ce que j'ai tant de choses à dire que ça ?» Et puis qui est-ce que ça va intéresser ? En fait, on parle de la restauration, mais je parle pas du côté sexy de la restauration. Je parle du côté que... Enfin, franchement, personne n'a envie d'en entendre parler. Et puis finalement, ça a fonctionné comme ça.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si vous avez aimé ou pas ce milieu. On sent que vous l'aimez autant que vous le détestez.
Bah, c'est exactement ça. Je l'aime autant que je le déteste. Il m'a apporté autant qu'il m'a enlevé. Et de conversations sûres avec de nombreux cuisiniers, de nombreuses cuisinières et de personnes tout simplement qui travaillent dans la
restauration. Autour, hein, parce que vous parlez aussi des gens qui travaillent, voilà. Par exemple, au hall, qui apportent à manger.
Oui, des maraîchers, des fournisseurs, voilà. Etc. Mais je pense que pour toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu, ils ont autant d'amour et de haine que pour ce secteur.
Alors, oui, alors je vous posais cette question sur ça, parce que dès le début, quand même, vous plantez le décor, hein, vous dites, c'est alors que je me suis emmuré et que mes... Alors, maintenant, je vais reprendre, c'est alors que je me suis emmuré que mes je vais pas arriver à le dire, et que mes maxillaires se sont soudés, j'ai maintenu les dents serrées derrière les lèvres, l'indicible. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous aviez les dents serrées?
Ouais, je pense qu'on passe notre temps à serrer les dents dans la restauration, déjà parce que c'est dur physiquement, puis c'est dur psychologiquement à différents stades pour différentes raisons, mais que ce soit quand on est apprenti, puis que quand on prend des postes à responsabilité, puis potentiellement le jour où on devient sous-chef, chef, puis que peut-être on ouvre aussi notre affaire. Et c'est à ce moment-là, on passe notre temps à serrer les dents pour différentes raisons, mais c'est un métier qui est profondément difficile.
Ce qui est difficile, c'est les gestes, ça, on le voit tout de suite. Hein. Je réévoque ce premier chapitre très fort, enfin ce deuxième chapitre, parce qu'il y a cette petite introduction, chapitre très fort où on est dans, comment on appelle ça, l'heure du rush, l'heure où vous avez un service. On comprend très bien ce que c'est un service quand il y a une table de 6, comment on organise une table de 6, parce qu'il faut préparer la sauce de lin, le plat et en même temps le poisson et tout doit être servi en même temps. Parce que j'imagine à ce moment-là, vous travaillez sûrement dans un restaurant exigeant quand vous racontez ça. Parce que moi, je ne me suis jamais imaginé en allant dans un restaurant que c'était tout ce travail-là derrière. Et là, on réalise toute la puissance de travail qu'il faut avoir, justement. C'est ça, c'est l'ambiance, parce qu'on est dans un endroit qui est chaud, qui est souvent petit. C'est tout ça, c'est d'abord physique, la dureté, au-delà même de tout ce qu'on peut lire et entendre sur les violences dans ce milieu dont on parlera peut-être un peu plus tard.
Oui, la cuisine, c'est un métier très particulier parce que c'est un métier qui est issu du compagnonnage. Donc c'est un métier qui s'est exercé pendant des centaines d'années à huis clos. Donc, c'est-à-dire que c'était un métier dans lequel on rentrait par cooptation et dont en fait finalement on ne sortait pas, puisqu'on n'était que formé à ça. Donc c'est un métier qui est fait de huis clos, qui est fait pour contenir dans la même pièce pendant des heures durant les mêmes personnes à répéter des tâches qui sont souvent relativement les mêmes d'un jour à l'autre sur des plages horaires extrêmement étendues et avec une pression monstrueuse que sont les deux services par jour.
Deux fois par jour, il y a une pression pendant 2-3 heures.
Voilà, exactement. Donc forcément, ça en fait un métier extrêmement particulier de par son histoire.
Une cuisine, c'est tout petit? Moi, je ne suis jamais dans une cuisine de restaurant.
Ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont très grandes. J'ai vu des cuisines de plusieurs centaines de mètres carrés, surtout quand on est sur des labos de prod, typiquement, où on vient produire pour plusieurs centaines, plusieurs milliers de repas ou sur données
événementielles. Oui, ça, c'est de la cuisine industrielle, comme on dit. Pas forcément.
Ouais, ça, bah, on appelle ça plutôt voilà, des labos de prod. Ce n'est pas forcément de la cuisine industrielle. On peut faire des choses très bien et fait maison, même à très grande échelle. Maintenant, c'est vrai que globalement, quand on exerce dans un restaurant parisien, la place manque. Maintenant, dès qu'on exerce en province, en région, on peut avoir des cuisines un petit peu plus grandes, un petit peu plus confortables.
On ne peut pas faire votre métier sans se blesser. Enfin, on ne peut pas faire ce métier parce que ce n'est plus votre métier. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'entre la chaleur, les outils, forcément, on ne peut pas faire ça pendant 10 ans sans jamais se blesser.
Non, et puis on voit, la cuisine, elle impacte physiquement, hormis la blessure à l'instant T, parce qu'on s'est coupé à la mandoline ou qu'on s'est pris une assiette.
C'est bien que vous dites ça comme si c'était normal.
Ouais, on banalise beaucoup de choses en cuisine. Mais en fait, c'est un métier qui impacte les genoux, les articulations, le dos, les épaules, qui vient impacter le corps au quotidien par différentes sollicitations.
Comment vous avez travaillé votre style? Parce que quand on rentre dans votre livre, tout de suite, on est pris par le style. Au-delà du sujet, la manière dont vous écrivez, vous avez expliqué tout à l'heure, par exemple, que vous étiez toujours à la recherche, mais vous cherchez aussi les images, j'imagine. Je me suis même demandé si vous lisiez de la poésie à côté, parce qu'il y a des images très fortes dans votre écriture.
J'en ai agacé peut-être, mais franchement, j'ai rien travaillé du tout.
C'est juste,
j'ai envie de vous dire que ça sort comme je le pense. Et en fait, ma seule difficulté, c'est de traduire en mots les images que j'ai en tête. C'est tout.
Donc là, c'était Pardon, j'ai essayé d'y arriver. Moi, j'ai du mal à traduire en mots ce qui passe aussi dans ma tête, là. Mais parfois, c'est dur d'improviser. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, vous repensiez à des moments clés. Enfin, j'ai envie de savoir comment vous avez construit l'ensemble du livre. Les scènes, comment vous articulez. Est-ce qu'il y a des portraits des personnes que vous avez croisées? Mais il y a aussi des moments où on revient à la cuisine, des moments où vous êtes... La fin, vous parlez beaucoup des moments où vous êtes où vous rentrez chez vous de nuit, par exemple. Comment vous avez articulé tout ça? C'est avec votre éditeur que vous avez fait ce travail-là, peut-être aussi. Ça sert aussi à ça, un éditeur, je crois.
Sur le choix des moments, il me semble que chaque moment devait illustrer un propos. C'est-à-dire que plus que de simplement coucher sur le papier une image, il était important aussi de derrière pouvoir véhiculer un discours, sans forcément avoir la nécessité de tout intellectualiser, de tout corticaliser systématiquement. Mais typiquement, quand je veux parler d'extraction sociale, je suis très à l'aise de mettre en image l'un des chapitres, Titi qui en parle, ou alors quand je parle de la tristesse que peuvent avoir certaines personnes qui exercent dans le milieu de la nuit ou du rapport à la drogue, par exemple. Je suis extrêmement à l'aise de pouvoir illustrer ces propos-là avec des scènes que j'ai pu moi-même vivre ou des rencontres que j'ai pu faire. Donc le choix, c'est plutôt fait de cette façon-là. C'est qu'est-ce que je veux dire à travers ce livre ? J'ai l'opportunité de pouvoir faire parler des personnes dont on ne parle pas. Donc, qu'est-ce que je veux raconter derrière, puisque le but n'étant pas de faire un plaidoyer à la causette pour parler d'eux seulement.
Et c'est le format Instagram que vous aviez au début, qui fait que vous avez écrit par petits paragraphes. C'est parce que ça, vous repreniez parfois des paragraphes. Moi, j'ai regardé votre profil, justement, parce que je me suis posé la question. Et soit vous l'aviez sous un faux nom, soit j'ai très mal cherché, ce qui n'est pas impossible. Je n'ai pas trouvé ces extraits.
Non, c'est vrai que j'ai arrêté de les poster quand j'ai commencé à travailler sur le livre, par correction pour la maison d'édition, quand même. J'en ai laissé quelques-uns que j'avais postés.
Donc, je ne suis pas allé assez loin.
Effectivement, je trouve que le format court est très impactant et me permet aussi de ne pas me dilapider. J'aime les écritures très, très aiguillées, très franches, très tranchantes. Et le format court aide à caler la pensée de façon très...
Très précis, très nerveux.
Ouais, exactement.
C'est la nervosité que vous recherchiez.
Ouais. Vraiment au cordeau.
Est-ce que vous êtes donc du genre à écrire long et après à couper? Ou vous écrivez directement comme ça?
J'ai eu un gros problème d'accumulation, en fait, d'adjectifs.
Vous aviez trop?
J'avais trop. Et puis surtout, mon éditrice me disait, il y a des choses, tu les dis, ça veut rien dire. Franchement, enfin, ta phrase, là, techniquement... D'un point de vue syntaxe, grammatical et de mots à coller les uns aux autres, elle ne veut rien dire. C'est-à-dire que je suis capable de décrire une odeur avec des couleurs et elle me disait, les gens vont lire mais ils vont pas comprendre.
Et là, vous vous battiez en disant mais si c'est comme ça.
Ouais, il y en a certains pour lesquels je me suis battue et puis j'ai aussi choisi mes combats.
Normal,
il y a
ouais.
Des choses que j'ai laissé passer et sur lesquelles on a remanié et redonné du sens pour que justement ce soit lisible et compréhensible. Aussi parce que quand on a exercé pendant 10 ans dans la restauration, il y a des verbatims, des expressions qui nous semblent d'une évidence absolue et qui ne sont pas du tout pour le commun des mortels qui va lire le bouquin et qui va se dire « mais de quoi tu parles ?» En fait, on s'est même posé la question de mettre un lexique à la fin pour vous dire.
Ouais, parce qu'il y a tout le vocabulaire de la cuisine qui est un vocabulaire très précis. Il y a des mots, moi j'ai cherché. Hein.
Des abréviations, etc. Enfin, il n'y a pas tout le monde quand je dis « je vais mettre la plaque Jap au rational ». Je défie...
Pardon, vous pouvez me redire ça, la plaque Jap au rational.
La plaque Jap au rational, c'est en fait les plaques Jap, c'est des petites plaques en inox qui permettent de faire cuire, je sais pas, une portion de poisson par exemple. Et le rational, c'est parce que c'est un four qui passe en four vapeur. Bon, ben ça, je l'ai écrit dans le livre au début. Et puis très vite, chez Julliard, ils m'ont dit, t'es gentil, mais il va falloir traduire quand même, quoi.
Et vous avez, c'était un gros travail, ça ?
Ouais. Oui, parce que du coup, j'avais l'impression de me trahir.
Parce qu'en fait, moi, je l'aurais jamais dit comme ça. Où vous cherchez toujours le mot précis, donc on vous demandait de retirer le mot précis.
Non, moi, je vais pas dire, je vais mettre au four vapeur la plaque en inox.
Et personne va dire ça dans le milieu.
Non.
Alors, ouais. C'est intéressant, ça. Vous avez presque fait un travail de traductrice, finalement.
Ouais, c'est
aussi
un travail de jongle aussi, mais quand même pour garder l'identité de la langue dans laquelle je l'aurais dit, qui est en fait... c'est un parler de la restauration. Et honnêtement, je pense que si vous mettez demain les pieds dans une cuisine, je ne suis pas certaine que vous sachiez exactement ce que les gens se racontent.
Ah oui, à ce point-là ?
Ouais.
C'est aussi...
Ouais, c'est comme le luchébème des bouchers à Rungis et tout, c'est pareil. C'est quand même un vocabulaire très particulier.
Justement, vous l'avez fait lire à des gens du milieu,
comme j'évolue dans, je continue à évoluer dans ce secteur-là, il y a quand même beaucoup de chefs qui l'ont lu, ou de fournisseurs, de maraîchers, etc., ou de personnes, même des archis qui bossent dans la restauration, enfin vraiment voilà, des gens du milieu et qui ont été assez touchés par le format aussi, parce que c'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre de chef.
C'est pas un essai non plus,
parce que
j'ai beaucoup lu que c'était un livre sur les violences en cuisine, c'est pas que ça.
Non. Alors moi, j'ai été assez en colère de voir le sujet être traité comme tel. Je pense que de toute manière, quand une femme s'exprime sur la restauration, elle est forcément étiquetée comme telle, comme quelqu'un qui va du coup s'exprimer sur les violences en cuisine. Je pense que le livre raconte ça en partie, mais raconte aussi beaucoup
d'autres choses. Il raconte beaucoup d'autres choses. Il raconte beaucoup de choses sur sur la vie, sur la mort, sur la vie en fait, et qui saisit la vie, parce que vous regardez les choses avec un œil très précis. L'heure tourne et on me fait signe que c'est déjà l'heure d'écouter Harry Styles qui attend, et il n'en peut plus d'attendre, Harry. Alors on l'écoute à Aperture. Aperture, un extrait de l'album Kiss All The Time. Vous êtes toujours sur Radio Campus et toujours tout un plat avec Adélie Verne, autrice de L'exercice des mâchoires. On va écouter un extrait de son livre lu par l'autrice. Quelle chance.
Les chaises se font face. Au bout du marché d'Aligre, la lune au-dessus, l'emplacement livraison en dessous. Le bourdonnement du match de NBA. le regard bleu vitreux des chauffeurs de taxi. Il y a Latifa du chat noir. Les yeux cotonneux, les lèvres gercées, elle reste debout. Elle attend son daddy. Une crêpe salée à la main, une Marlboro rouge dans l'autre. Le goût de la levure, du lait, de la farine qui glisse avec la bière tiède. Cette nuit peut prendre deux voies. Le match de NBA, la crêpe au jambon de dinde, l'alcool tiède et son daddy qui viendra la récupérer en merco. Le bois de Vincennes, le morceau de cuisse qui dépasse. Les buissons, les aires de jeu, les phares qui défilent, les arlequins et leur goût acidulé qui fait passer celui du latex. À l'aube, le McDo de fin de boulot et la boîte de nuggets contre laquelle elle collera ses paumes. Le jambon de dinde, la farine, la levure et la bière tiède, c'est la respectabilité de l'escorte. L'autre, c'est l'ornière. En fait, le fast-food, c'est le tarmac. L'atterrissage après les passes. L'odeur libératrice de la friture, le Big Mac de 7 heures. Latifa, je ne savais pas que dans un sundae caramel et un lever de soleil, il y avait tant de soulagement.
Merci, merci beaucoup. C'est encore peut-être plus beau quand vous le lisez que quand on le lit, nous. C'est très, très fort. J'espère que les gens ont écouté. Sinon, je les invite à réécouter ce passage. Parce que tout est très, très précis. Comme... Moi, j'ai vraiment l'impression que vous écrivez comme on fait un plat gastro. Quoi. Chaque mot est pesé, ciselé. Vous faites attention à ce que vous mettez à côté. Enfin, vous dites plein de choses. Là, et si on sait bien entendre, Latifa, elle nous bouleverse. C'est ce que vous vouliez nous faire sortir ?
Bah, moi, j'ai été marquée par des écritures comme celle, par exemple, de François Simon, que j'ai énormément lu, ou encore Perico Legas à l'époque, quand il écrivait dans Marianne. Ou alors les deux critiques gastronomiques, Henri Gault et Christian Millot, qui ont eu cette sagesse d'écriture, de savoir dire énormément avec très peu de mots. Et je trouve finalement que c'est presque une philosophie de vie, de savoir en dire beaucoup, avec à chaque fois des paroles très justes et très bien choisies. Donc je n'ai pas la prétention de savoir écrire comme eux. En tout cas, de toute manière, c'est un registre extrêmement différent. Mais c'est quelque chose et une façon d'écrire qui me touche particulièrement.
Ben moi, la vôtre me touche. Et là, par exemple, ce portrait, là, c'est quand vous travaillez de nuit dans un restaurant de seconde zone. Vous écrivez d'ailleurs que les restaurants de seconde zone vous bouleversent, je crois, qu'il y a quelque chose comme ça. Hein, que c'est des endroits où vous aimez aller.
Oui, c'est vraiment des... À la fois, c'est des phares et à la fois, c'est aussi des écueils. Ces restaurants de seconde zone, justement, c'est ceux dans lesquels on met beaucoup de souvenirs. C'est des restaurants d'étape, d'appoint. Et c'est là aussi, on peut avoir des habitudes alimentaires qui ne regardent que nous. Je sais que chacun commande son kebab d'une façon très particulière, salade, tomate, sans oignons, sauce algérienne et un tout petit peu de sauce blanche. Et puis en fait, chacun va avoir sa façon de le faire. Et c'est des choses aussi qui m'ont marquée dans ma jeunesse, puisque je suis issue d'un quartier où c'est ce type de restauration-là qu'on retrouve. Et c'est ces restaurants-là que j'ai fait en majorité, en fait.
Dans vos portraits, il y a beaucoup de destins brisés. Je pense à Armand, il y a Michel, il y a Amine. Ces gens-là, c'est des gens que vous avez aimés, que vous aviez envie de faire revivre ?
Oui, complètement. C'est des gens qui ont croisé ma route ponctuellement ou de façon beaucoup plus longue, comme par exemple Michel, avec qui j'ai quand même travaillé pendant quasiment un an. Donc, c'est des profils tous très particuliers et qui font encore... Une fois, ils font la restauration en fait à 99% finalement les chefs très starisés qu'on retrouve dans les médias.
Ils n'iront jamais à Top Chef. Hein.
Non, ils n'iront pas à Top Chef et d'ailleurs pour la plupart ils sont pas chefs. Ils ont des titres un peu bâtards. Ils sont aide cuisine, commis cuisine, avec des fiches de paye pas toujours réglo, etc. Et en fait c'est des personnes qui gravitent dans ces milieux-là. C'est les chauffeurs de taxi qui nous ramènent après le service, mais qui font partie du paysage.
Vous nous parlez un peu d'Amine. Je trouve son destin incroyable.
Oui, complètement. Donc, c'est un chauffeur de taxi. C'est vraiment une histoire très particulière, Amine, parce que c'est un chauffeur que j'ai rencontré à l'époque. Donc, il y avait un service de voiture de VTC qui se lançait, bien connu aujourd'hui, et que je retrouvais à la fin de mon shift. Pour dire, le service VTC était tellement récent que j'avais eu le culot d'envoyer un mail au service client en leur demandant si je pouvais avoir un abonnement parce que je travaillais dans la restauration et que je rentrais très tard le soir. Ils m'ont répondu que non, mais voilà. Mais du coup, sur ces entrefaits, moi, j'ai rencontré Amine qui, du coup, venait me chercher très régulièrement après mes shifts. Et c'est vrai qu'on a passé quelques soirées assez unique et avec une sorte de faille spatio-temporelle où finalement on faisait juste le tour de Paris dans sa voiture de loc et on récupérait ses clients au fur et à mesure. Et puis ça a contribué à faire passer le temps et ça formait aussi une forme de sas à la fin du service avant de rentrer chez soi.
À la fin d'un service, on est quoi ? On est vidé, on est épuisé, mais on n'a même pas la force de rentrer chez soi ?
Bah, on est à la fois vidé et à la fois il y a une forme d'adrénaline. Et puis surtout, on vient grignoter du temps parce que la restauration nous a pris 95% de notre journée. Et alors qu'on est épuisé, on va quand même boire un coup à la fin du service. On va quand même fumer beaucoup de trop de clopes qu'on aurait dû fumer. Et on va quand même traîner à la fin avant la fermeture totale du resto. Et on va quand même sans aucun doute sortir alors qu'on sait très bien.
Vous êtes jeune aussi. Hein. Vous avez, à l'époque où vous êtes jeune, vous racontez vos années de jeunesse en fait. Si je comprends bien, vous racontez vos 17-27 ans approximativement.
Oui, exactement, mais 15-16-25, ouais, exactement.
Il y a des gens qui continuent comme ça toute leur vie ?
Oui.
Et ça les abîme ?
Ouais, ça les abîme. Il y a des gens qui ont tendance à penser que c'est la restauration leur famille, alors que c'est aussi un milieu qui peut être extrêmement dur et qui fait fi d'un turnover assez conséquent. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui prend et qui donne beaucoup.
Qui donne quand même. Beaucoup.
Qui donne énormément.
Oui, parce que vous racontez, à un moment, il y a des fois, on ne va même pas aux fêtes de famille parce qu'on doit être là. Il faut servir, il faut produire, il faut délivrer, voilà.
Oui, et il faut délivrer, il faut être là. Et aussi parce que, en fait, quand vous intégrez une maison, alors là, je parle particulièrement pour la cuisine, mais quand vous intégrez une maison, enfin, moi, j'ai vraiment ressenti comme telle, c'est la maison qui devient la famille. Quand je dis on intègre une maison, parce que je vous vois froncer les sourcils, c'est quand on intègre un restaurant, quand on fait partie d'une brigade. Quand on intègre une maison, c'est cette maison-là qui devient la famille. Et s'il faut choisir entre fêter le nouvel an avec les collègues ou rentrer chez soi, je pense que c'est ok de se poser la question de en fait je vais peut-être rester avec les collègues à la fin du service quoi.
C'est tout ça qu'on peut lire dans votre livre Adèle Hiverne, je rappelle son titre L'exercice des mâchoires. Moi je crois avoir remarqué, et pardon si je me trompe, vous allez me le dire, c'est que vous parlez d'ingrédients, beaucoup d'ingrédients, mais vous donnez jamais de plat. C'était un choix aussi là de parler que des produits, mais j'ai pas l'impression que vous parliez de plats finis.
Non, je crois que j'ai tout de suite voulu laisser beaucoup de place à l'imaginaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médiatisations diverses dont profitent les restaurants et les chefs, on a régulièrement en fait une fiche recette avec un repas qui est terminé, avec de l'iconographie qui est associée, ou bien une image à la télé, ou bien on donne une recette à la radio. Moi, j'avais plutôt envie de laisser libre cours à ça et de parler plus de produits bruts.
Vous avez, comme toutes les personnes qui ont fait de la cuisine, un amour du produit avant tout ?
Oui, d'abord le produit brut avant la recette en elle-même, je pense.
Allez, encore un peu de musique sur Radio Campus Paris. On approche tout doucement de 21h. It's a lot, 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 like life. Voyage dans les années 80, je ne sais pas s'il fallait le faire. Celui-là, c'était Master and Servant et c'était Dépêche Mode. Mais oui, on écoute toujours Tout un Plat. On a notre mini-bed, on est bien. Il est bientôt 21h, vous écoutez Radio Campus Paris. On est sur 93.9 FM. Voilà, ça y est, je le sais. L'ami Pablo est content, tout va bien. L'hiver n'est toujours avec nous. Vous êtes l'autrice de L'exercice des mâchoires, paru aux éditions Juarf. Quand même, il faut qu'on parle un peu de ce titre, L'exercice des mâchoires. Alors j'imagine, la mâchoire, c'est le moment où on mange. Alors moi, mâchoire, ça me fait tout de suite penser à un piège à mâchoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un piège à mâchoire. C'était votre idée ou pas du tout?
Le piège à mâchoire, pas du tout.
Bon, ben voilà, c'est moi.
Voilà. Non, l'exercice des mâchoires, c'était
mon idée. Peut-être votre page Instagram, peut-être, non ?
Mais même pas. C'est, en fait, c'est quelque chose que j'ai lu il y a des années, parce que je lis beaucoup sur l'histoire de l'alimentation, la socio, l'ethno sur l'alimentation. Et c'est Grimaud de la Reynière, qui est un des premiers auteurs historiens à écrire sur la cuisine. Qui a qualifié, qui disait qu'il était absolument abject d'interrompre un gastronome dans l'exercice de ses mâchoires. Donc je n'ai fait que le paraphraser, mais voilà, il est mort il y a très longtemps, donc j'ai le droit.
mais justement, en cuisine, vous ne mangez pas ? C'est le client qui mange.
Oui, mais complètement. Après, mais on a parlé tout à l'heure du fait de serrer les dents quand on travaille en cuisine.
C'était
c'est vrai
ça
que...
aussi au cas à quoi vous pensiez dans, ouais, avec ce titre.
Moi,
c'est la polyphonie qui vous plaisait.
Je suis plutôt dans l'exercice des mâchoires, dans le sens où j'ai toujours été marquée par les mandibules des chefs quand ils goûtent. En fait, ils ont toujours des... Pour bien ressentir un goût, on active olfactivement du coup cette rétro-olfaction. Donc on vient à la fois avaler et on vient produire de la salive et du coup ça crée sur les mâchoires des sortes de proéminence et je trouve ça très marquant parce qu'en fait quand vous avez des cuisiniers qui goûtent toute la journée et qui portent à leur bouche systématiquement des choses pendant toute la journée, on mange pas vraiment. Mais on a mangé quand même et on passe notre temps à exercer les mâchoires. Et à la fin de la journée, moi, j'ai souvent eu la sensation d'avoir déjà de l'acidité très, très forte. En fait, on a les dents qui baignent parce qu'en fait, on a des sucs constamment activés et on a toujours ces mâchoires qui sont en exercice.
Donc, et on a toujours faim, ça. Alors
on n'a ni faim ni pas faim. C'est un peu entre les deux. À la fois écœuré de goût et à la fois on n'a pas rempli l'estomac.
Ah oui, parce que oui, vous mangez tout.
Ouais,
c'est ça que je réalise. Oui, on réalise
tout.
Pas forcément. Oui, vous goûtez de tout.
Et
donc,
on sent de tout. Donc on est, on n'a pas faim, mais on a un nombre de goûts incalculable à la fin.
Poser une question un peu bête, mais bon, ce sera peut-être pas la première, mais enfin celle-là, je le sais. Vous avez eu plusieurs expériences. Qu'est-ce que vous avez préféré faire ? Travailler, c'est plus amusant de travailler dans un étoilé que dans une brasserie, ou vous avez aimé la brasserie pour d'autres raisons ? J'ai cru comprendre, vous disiez tout à l'heure que vous aviez adoré se tirer des bières, c'est l'expression, hein, c'est ça on dit ?
Ouais, exactement. C'est complètement l'expression. Non, mais j'ai adoré le milieu de la nuit de façon très générale parce que ce décalage absolument fantasmagorique entre la vie le jour et la vie choisis la nuit, j'ai adoré ça. J'ai aussi adoré la rigueur de l'étoilé et l'aspect très militaire qu'impose la profession exercée dans ce cadre-là.
Vous appreniez la danse, vous, donc la rigueur, vous connaissez.
Ouais, exactement.
Les cuisiniers vous faisaient rire à côté, non ?
Et les gammes et le fait de répéter un geste jusqu'à la perfection, c'est quelque chose que j'aime profondément, c'est-à-dire de le faire, de le refaire et de ne pas se satisfaire de ce qu'on sait faire. C'est vraiment quelque chose que j'aime, qui est un peu maso, mais voilà, qui me va bien.
Si ça vous va, c'est l'essentiel. Et mixologue ?
Et mixologue aussi, et l'apprentissage des alcools et des goûts via le liquide est extrêmement intéressant aussi dans cette question de rétro-olfaction. On les perçoit de façon différente et puis tout le service aussi qui va avec est absolument passionnant.
Oui, parce que vous racontez tout ça dans votre livre, encore une fois. Il y a beaucoup de choses. Vous racontez aussi les à côté, le moment où entre deux services, on va fumer une clope avec les gens de la brigade. Dans la course, c'est très mal de fumer. Là encore, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus de tabac aussi, même. Sérieusement, si vous pouvez ne jamais commencer, ne commencez pas. C'est mon rôle de le dire et je le pense vraiment. Mais vous racontez tout ça, toute cette vie autour, ces moments creux aussi parfois, ces moments pleins. Je vois l'heure qui tourne malheureusement. Qu'est-ce que vous regrettez de ce monde-là aujourd'hui ?
Ce que je regrette, je pense, c'est le contact avec le service et avec le coup de feu et l'adrénaline que ça génère. C'est-à-dire qu'il y a une forme de montée en puissance, c'est-à-dire qu'à 11h, 11h15, on commence à nettoyer la cuisine avant le service, à 11h30, on passe au perso, voilà. Et à midi, en fait, tout le monde doit être en place.
Ouais.
On est au service et... En fait, les postes que j'ai préférés, ça a toujours été au cuisson, en cuisine, quand j'ai exercé en cuisine. Et en fait, les postes au cuisson sont extrêmement demandeurs parce que justement, on doit être force d'un nombre de gestes à la minute qui est absolument incalculable et on doit diviser notre cerveau en plusieurs petites parties.
Aujourd'hui, vous accompagnez des chefs, hein, des chefs connus, plus ou moins connus, en tout cas des chefs de gastronomie, je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, vous les accompagnez, j'imagine que parfois vous les voyez, est-ce que des fois vous avez envie de les aider ?
Ça m'est arrivé de faire des événements et de passer derrière le pass en fait parce qu'il fallait filer un coup de main à un moment donné. Ça m'apporte aussi une compréhension de leur métier qui est très particulière. Donc j'ai une approche avec eux qui ne vient pas d'une communicante mais d'une personne qui a exercé leur métier pendant des années, pas à leur niveau, pas autant qu'eux, pas en étant chef propriétaire. Mais j'ai fait des ouvertures, j'ai fait des services difficiles, je sais ce que c'est qu'une plonge qui pète avant un service, je sais ce que c'est que des gars qui ne se pointent pas en cuisine et qui du coup foutent le service en l'air.
Vous savez ce que c'est une plaque macha qu'on met dans je sais plus quoi.
Aussi, voilà. Et du coup ça peut me permettre de parler en un petit peu, je pense, le même langage qu'eux et de comprendre leurs impératifs.
Et est-ce que vous aimez faire à manger chez vous pour votre famille ?
Oui, toujours. J'ai juste plus le temps, donc c'est pas moi qui le fais. Mais
Ça doit être terrible de faire à manger chez vous pour.
En fait, je vais vous dire quelque chose. En fait, j'aime faire des grosses quantités parce que j'ai gardé ça. Et du coup, je suis ravie de faire à manger pour 12 ou 15 personnes.
Eh bien, on vient. Allez.
Voilà. Mais pour 2 ou 3 ou 4, ça me fatigue un peu plus.
Il est bientôt 21h. On va pouvoir aller toucher à Deliverne. On ne sait pas où c'est, mais on va y aller. Bien évidemment, c'est une blague. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était passionnant. C'était aussi passionnant que votre livre. J'espère qu'on donnera envie à beaucoup de gens de le lire. Je redonne son titre. C'est L'exercice des mâchoires. C'est paru aux éditions Julliard. J'espère qu'on vous a donné envie de lire. Je peux pas dire ça autrement. Merci beaucoup Adélie.
Merci
C'était
à vous.
C'était Tout un plat, le magazine de Radio Campus où la cuisine se met à table. L'émission était préparée et présentée par Christophe. À réalisation, il y avait aujourd'hui encore Pablo et qui a fait toutes ses émissions sans manger. Vous pouvez retrouver ce numéro et tous les précédents sur le site internet de radiocampusparis.org, rubrique Tout un plat. On se retrouve dans 4 semaines et on vous promet ce sera encore avec une autrice. Bonne soirée. Allez, à 21h, tout de suite, dans quelques instants, vous retrouvez les DJ de Haute-Mer hein, sur Radio Campus Paris. On part en bateau.